dans les coulisses de Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Pendant 3 semaines, nous accompagnons le manager de l'équipe, Ralf Denk, au cœur de la plus grande et la plus titrée des équipes cyclistes allemandes sur la Grande Boucle. Vous avez des questions pour Ralf Denk ? Envoyez-les à tobias.rufovemedia.deus. Et maintenant, profitez bien de ce nouvel épisode.
Tadej Pogacar a remporté la 3e étape du Tour de France et s'empare du maillot jaune. Florian Lipovitz et Remco Evenepoel terminent aux 7e et 8e places, ne perdant que quelques secondes sur Pogacar. Des feux de forêt sèment le trouble et imposent des changements. Nous avons beaucoup à dire et nous le faisons comme chaque jour avec le manager de l'équipe Red Bull, Bora Hansgrohe. Bonjour à Ralf Denk.
Bonjour et salutations à Rosenheim.
Oui, Ralf, avant de commencer, où te trouvons-nous aujourd'hui? Où es-tu exactement? La journée a été un peu étrange, le déroulement des événements.
Oui, en effet, car il y avait très peu, voire aucun spectateur sur les derniers kilomètres. C'est très, très inhabituel pour le Tour de France. Moi, je suis au pied de la montée finale. Les bus des équipes sont garés ici. Voici les coureurs qui descendent avec leur vélo. Et voilà, nous venons d'accueillir les premiers coureurs. Nous avons déjà parlé avec Remco, avec Florian. Et maintenant, nous préparons le long transfert. C'est plus de 2h30 aujourd'hui vers l'hôtel de l'équipe à Carcassonne. Et ce sera une longue journée aujourd'hui.
La journée va être longue. Ralf est quelque part dans la Pampa. Si la connexion n'est pas idéale aujourd'hui, veuillez nous en excuser. Avant de parler de ton équipe, évoquons Pogacar. Sur un tel profil d'étape, avec un tel scénario, Pogacar est impossible à battre, n'est-ce pas ?
Très dur, très dur. Et on a pu remarquer pendant l'étape à quel point l'équipe prenait ça au sérieux aujourd'hui. Et c'était une course très difficile. Il faisait très, très chaud. On avait dans le bus de l'équipe une température extérieure de 40 degrés. C'était vraiment très chaud. On a distribué énormément de boissons, de la glace pendant l'étape et c'était tout le temps incroyablement rapide. C'était sur le papier une étape où l'on pouvait se dire, eh bien, peut-être une chance pour l'échapper, pour les coureurs qui ont déjà pas mal de retard au classement général après les deux premières étapes. Ils pourraient tenter le coup pour la victoire d'étape aujourd'hui. Mais le patron, Tadej Pogacar, voulait absolument gagner. Il a mis son équipe à contribution. L'équipe était très forte. Ils ont maintenu les échappées à 2 minutes et demie maximum. Et à la fin, ils ont comblé l'écart. Il y a eu un sprint entre les favoris. Et Tadej Pogacar a été le meilleur avec 4 secondes d'avance sur Florian et Remco.
Exact. Passons maintenant à Red Bull Bora Hansgrohe. Pour moi, avec Pogacar, le vainqueur du jour est Florian Lipovitz. Ce n'est toujours pas son terrain. Il dit lui-même qu'il lui faut du temps pour entrer dans une telle course et il finit 7e, sans compter les bonifications. Comme tu l'as dit, ce sont 4 secondes. Ça aurait pu se passer autrement. Comme je l'ai dit, l'un de mes grands gagnants est Florian. Et toi, qu'en penses-tu ?
Oui, mais je dois toujours me souvenir ça, des premiers jours de l'année dernière. Ça, il était presque en larmes de ça, l'an dernier, car ça ne se passait pas bien et c'était difficile. Et avec ses premiers jours dans le nord de la France, il fallait tout sauf facile pour lui. Et cette année, ça, il gère les premiers jours avec brio. Et j'ai aussi parlé brièvement avec lui avant. Il s'est senti vraiment bien, même dans la montée finale. Et cela nous rend, moi et lui aussi, bien sûr, très optimistes. Donc, l'ambiance est vraiment bonne.
Tactiquement, ça s'est plutôt bien passé de votre point de vue. Vous étiez bien placé dans la montée finale. Le travail de poursuite dont tu parlais a été fait par Visma, puis par UAE. Alors, y a-t-il quelque chose que vous pouvez vous reprocher aujourd'hui ?
Non, il faut aussi féliciter Jai Hindley. Dans la montée finale, il a encore parfaitement placé Florian et Remco. C'était du haut niveau. C'était un équipier très, très, très précieux aujourd'hui. Je le lui ai dit personnellement. La seule chose, c'est qu'il n'était peut-être pas aussi percutant qu'on a pu le voir par le passé. C'est Remco, mais en discutant avec lui, il n'a pas couru depuis très longtemps. Et ce type d'effort tel qu'il était requis dans le final aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut difficilement simuler à l'entraînement. C'est peut-être pour ça qu'il finit huitième aujourd'hui et n'était pas au niveau de Pogacar, mais ce n'est pas grave pour autant. Et il s'est aussi senti super bien pendant la journée, malgré la chaleur. Et nous regardons maintenant sereinement et tout en restant concentré vers l'avenir.
J'ai reçu très tôt une question de l'auditeur Marcus Riedel. Il était un peu perplexe quant à la raison pour laquelle Tim Van Dijk a dû lâcher prise si tôt. Quelles en étaient les raisons?
Elle ne peut pas encore en donner les raisons, là, car Tim, comme beaucoup d'autres dans l'avant-dernier groupe, a eu par moment 30 minutes de retard et il n'est pas encore arrivé. Je n'ai pas pu lui parler pour savoir ce qui s'est réellement passé.
D'accord, nous pourrons peut-être en reparler demain. Nous enregistrons en effet juste après la fin de l'étape, comme en vit Van Gils après sa chute d'hier. Tu nous en avais parlé.
Aussi bien que prévu, même si quand on regarde sa main, il lui manque vraiment toute la corne au niveau de la paume. C'est horrible à voir, mais dans l'ensemble, il va bien. Le fait de se refroidir avec de l'eau, ça brûle forcément dans les plaies. Il a souffert aujourd'hui, mais c'était supportable, dit-il.
Parlons de ces feux de forêt qui ont causé des changements aujourd'hui. Tu es à environ 40 km de l'arrivée. On a demandé aux spectateurs de ne pas s'y rendre, mais il y en avait quand même quelques-uns, bien sûr. Des gens y habitent aussi. On ne peut évidemment pas les enfermer chez eux. Pas de caravane publicitaire. Les équipes ont aussi dû réduire considérablement leur convoi. Comment avez-vous été touché exactement?
À part le fait qu'il y avait peu, voire pas du tout de spectateurs au bord de la route, nous n'avons pas vu grand-chose. Personnellement, je n'ai pas vu d'incendie de forêt. Je suppose plutôt qu'il s'agit de mesures de précaution prises par les autorités. Et les autorités ont toujours le dernier mot sur les organisateurs. Donc, même si les organisateurs souhaitent la présence de spectateurs, si les autorités disent non, alors c'est non. Et ce n'est pas comme si nous courions à côté d'un feu de forêt. C'est, à mon avis, plutôt des mesures de précaution. Bien que j'ai entendu dire par des amis qui habitent dans le sud de la France que ça brûle de temps en temps. Mais ici, sur le Tour de France, je n'ai rien vu.
Mais les véhicules d'équipe ont-ils été réduits ou quel impact cela a-t-il eu?
Non, on ne peut pas vraiment aider à réduire, car chaque véhicule a son utilité et a aussi sa mission dans la course. Et la caravane a été arrêtée plus tôt. Bon, la caravane publicitaire n'est pas indispensable pour la course, mais on ne peut pas arrêter les bus des équipes, les véhicules de ravitaillement ou les voitures des directeurs sportifs. Sinon, toute la machine ne fonctionne plus.
D'accord, nous allons surveiller cela de près. Cela pourrait encore avoir des conséquences dans les prochains jours, mais nous restons en contact avec toi quotidiennement. Nous gardons donc tout à l'œil. Monsieur Ralph, nous allons aborder un contexte que j'ai apporté aujourd'hui. Je veux parler avec vous du sujet des réunions d'équipe. Éclairez-nous, s'il vous plaît, quand et où a lieu la réunion d'équipe avant une étape qui, disons, commence à 13 heures. À quelle heure cela commence-t-il? Où cela se passe-t-il?
Oui, alors, si on prend le point de départ, maintenant, aujourd'hui, lundi, 17h30, là, nous allons en bus à l'hôtel de l'équipe. Les coureurs sont dedans, mais la direction sportive y est aussi. Quand je suis sur place, je suis aussi dans le bus. Si on laisse d'abord les coureurs tranquilles, d'abord on décompresse après la course. Il y a toujours des émotions, mais nous parlons maintenant d'autres choses importantes. C'est souvent les femmes ou les voitures avec les coureurs, mais sur le chemin du retour, on ne parle pas de cyclisme. Et ce n'est qu'une fois arrivé à l'hôtel, dans les salles de massage de l'équipe, que la direction sportive fait le tour pour parler individuellement aux coureurs et faire un premier bilan. Comment s'est passée la journée? Comment t'es-tu senti?
Quelles sont, selon toi, les possibilités pour le lendemain?
C'est une sorte d'état des lieux que fait la direction sportive sans donner de direction précise au départ, juste pour recueillir des informations. Une fois ces informations obtenues, il y a avant le dîner une réunion des directeurs sportifs ou du management, et c'est là qu'est décidé le plan pour le lendemain.
Alors, pardon de t'interrompre, est-ce un mélange de debriefing et de prévision ou est-ce vraiment uniquement la prévision?
Non, c'est d'abord qu'un debriefing, donc d'abord recueillir les informations des coureurs, puis en discuter en groupe. Que faisons-nous de ces informations? Et ensuite, les directeurs sportifs apportent leur savoir-faire, leur vision de la course et ce qui est possible. Finalement, on se concerte. Il y a 3 directeurs sportifs sur place, mais il y a aussi un directeur sportif en chef. Cela signifie qu'il n'y a jamais d'impasse. Nous avons toujours une décision. Et cette décision est d'abord prise par les directeurs sportifs durant la nuit. Cela signifie qu'aujourd'hui, nous ne parlons plus aux coureurs de ce que nous ferons demain, mais demain, avant la course dans le bus, 2 heures avant le départ, s'il y a une réunion, que faisons-nous aujourd'hui? Quel est notre plan aujourd'hui? Comment cela sera-t-il mis en œuvre? Et quelles sont les tâches de chaque athlète? C'est ainsi que cela est transmis. Mais si l'on remonte à l'analyse de l'étape pour voir ce qui est possible, les coureurs et surtout les capitaines sont toujours impliqués. Ce n'est donc pas une décision dictatoriale, c'est en fait une décision d'équipe et ce n'est que dans les situations très complexes que le directeur sportif a, pour ainsi dire, le dernier mot.
Mais jusqu'à présent, depuis que je fais ça, nous avons toujours trouvé de bons compromis et nous avons généralement eu le nez fin.
Est-ce qu'il arrive que le ton monte lors de ces réunions ou est-ce que cela reste calme et factuel?
Non, c'est une approche factuelle ou c'est aussi mon style de management quand je suis présent et c'est ce qui est transmis ici sur le Tour de France où le niveau de stress est déjà au maximum pour tout le monde. Nous n'avons pas besoin de réunions émotionnelles. On peut très bien régler ça de manière factuelle. Tout le monde est professionnel et sait comment s'y prendre.
D'accord, merci beaucoup pour ces coulisses. Alors, regardons vers l'avenir. Regardons demain, mardi. De Carcassonne à Foix, 181 km sont au programme. 4 ascensions au total, une de 4e, une de 3e et 2 de 2e catégorie. La fin est en descente. Le départ est à 13h10. L'arrivée est prévue vers 17h25. Ça semble l'échapper, je trouve. Qu'en penses-tu?
Oui, c'est tout à fait possible, car nous avons eu 3 jours où les meilleurs coureurs et les meilleures équipes de ce Tour de France se sont montrés aux avant-postes et ont aussi décroché les victoires d'étape. C'est pourquoi je crois aussi à une échappée et je pense que les équipes qui ont mené jusqu'ici, Visma Lisa Bike ou l'équipe UAE Emirates, ne vont pas demain tout donner pour contrer, mais je vois demain une belle chance pour le vainqueur issu d'une échappée, car on garde déjà un œil sur la 6e étape qui passera sans doute par le prestigieux Tourmalet.
Des options pour vous, protéger les leaders, peut-être saisir l'occasion si elle se présente, comment, quelles sont les idées?
Oui, nous avons de bons coureurs. Jai Hindley est en bonne forme. On l'a vu aujourd'hui dans la montée finale. Maxime Van Kiel se remettra aussi de sa chute d'hier. Mais comme je l'ai dit, nous allons simplement voir quel est le bilan maintenant, ce que chaque coureur a à dire sur la journée. Ensuite, nous devrons élaborer un plan ensemble.
Tu viens de nous l'expliquer en détail. Vous êtes tous au courant du déroulement et nous verrons ce que demain nous réserve. Ralph, nous ne nous parlerons pas demain, mais tu seras quand même présent dans notre podcast. Mon collègue Corbinian Sauter prendra le relais pour les 3 prochains jours. On se retrouve donc vendredi. Vous retrouverez Ralph Denk et mon collègue Corbinian Sauter demain à l'heure habituelle. Je vous dis merci, vous souhaite une excellente soirée, un bon transfert et beaucoup de succès pour demain. Un grand merci à Ralph Denk.
Avec grand plaisir et bien le bonjour à Rosenheim.
C'était l'édition actuelle de Inside Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Vous trouverez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur les sites d'OVB Media et Deepen Media.
Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine édition.